Dans la deuxième épître de Pierre, s'il vous plaît. Deuxième épître de Pierre. Nous avons lu tout à l'heure, chanté, « Apprends-moi donc à servir ». Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous préoccupe de le servir ? Est-ce que c'est important pour vous ? Comment servir ? Est-ce que j'ai trouvé ma place ? Dans quel état d'esprit je suis ? Est-ce que c'est important pour vous tout ça ? Servir Dieu, parce que c'est très, on peut le présenter d'une manière très sommaire, mais on peut le présenter d'une manière très intelligente, le service. D'autant plus que Jésus a dit, tu l'adoreras et tu le serviras. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui devient un adorateur. Je l'ai déjà dit, l'adorateur, ce n'est pas quelqu'un qui conjugue le verbe à la première personne du singulier. L'adorateur, c'est quelqu'un qui a une communion avec Dieu et il ne peut pas faire autrement que de lui exprimer sa reconnaissance. Après l'adoration, il y a une évidence. Quelqu'un qui adore, de toute façon, c'est un serviteur. Si les gens ne servent pas, c'est que ne sont pas des adorateurs. Quelqu'un qui adore a une communion avec Dieu et une véritable communion provoque le besoin de servir. Donc, dans la deuxième épître de Pierre, c'est une épître qui nous parle justement de cet équilibre que l'on doit développer pour être de bons chrétiens. Est-ce que vous êtes d'accord, avant que je ne fasse la lecture, pour dire que vous avez vu des chrétiens déséquilibrés? Est-ce que vous en avez déjà vu? Des chrétiens qui ils croient en Dieu, ils aiment Dieu, mais leur témoignage est lamentable. Est-ce que vous en avez déjà vu? Qui en a déjà vu? Un, deux, c'est bien, quatre, cinq, c'est bien, c'est très bien. Moi, je trouve qu'il y en a beaucoup même. Alors, on va travailler ce soir, dans la deuxième épître de Pierre, ce texte, nous allons lire les 14 premiers versets, s'il vous plaît. De Pierre, chapitre 1er, verset 1er. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Amen. Donc, dans ces 14 versets, vous avez toute une exhortation qui fera quand même, parce qu'il faut voir les conclusions, qui fera, regardez la fin du verset 10, je pense quand même que c'est important. Il y a beaucoup de textes dans la Bible qui nous rappellent que nous pouvons fléchir. C'est écrit ça, non, souvent. Mais quand même, ce texte, verset 10, la fin du verset 10, il est dit en faisant cela, donc en le vivant. En le mettant en pratique, je ne sais pas si vous vous rendez compte, la bénédiction que ça projette, vous ne broncherez jamais. Ça vous intéresse ? Donc ce que l'on va voir, si on le vit, fera que nous ne broncherons jamais, et que cette entrée dans le royaume, verset 11, cette entrée dans le royaume éternel, quand même c'est notre vie, hein, nous sera largement accordée. S'il y a dans la parole de Dieu beaucoup de textes qui nous enseignent qu'il y a vraiment des dangers, que beaucoup de chrétiens ne seront pas prêts, que beaucoup de chrétiens seront comme ces vierges folles qui n'auront pris jamais le temps de veiller, il y a aussi des textes qui nous enseignent que certains chrétiens ne broncheront jamais. Pourquoi ? Eh bien parce que, mais comme le dit le verset 10, c'est pourquoi, voyez, il y a des mots qu'on appelle comme ça des coordinations qui nous permettent de demander de nous appliquer. Appliquez-vous. Vous avez vu le verset 10 ? Appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection. Voilà. Donc la première question que je peux nous poser, est-ce que vous faites partie des gens qui s'appliquent ? Vous avez déjà vu certaines femmes cuisiner, comment elles s'appliquent ? Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Vous avez déjà vu des gens préparer des gâteaux ? Vous avez jamais été émerveillé devant un mets, devant un plat ? Ça vous est jamais arrivé de dire, oh, que c'est beau ! On ne le mangerait pas tellement c'est beau. On va le manger avec les yeux. Vous avez entendu ça ? C'est vrai qu'il y a des plats qui sont... Il y a des gens qui s'appliquent. Eh bien, c'est pareil dans le royaume de Dieu. Il y a des gens qui s'appliquent. Ce que Dieu dit est important, ce que Dieu dit est sérieux, ce que Dieu dit est utile. Donc, il faut prendre du temps pour analyser, pour réfléchir, pour prier, par rapport à ces 14 premiers versets de cet épître. Vous avez vu comment l'apôtre commence son épître ? Regardez comment c'est étonnant. Si vous regardez la première épître, il commence en disant « Pierre ». Là, il parle Simon et Pierre. Il donne son premier nom que son père physique lui a donné, et puis il donne le deuxième nom que le Père éternel lui a donné. Simon, le roseau, et puis Pierre. Vous voyez, de suite, on voit que cette épître va nous parler d'équilibre. C'est important de le comprendre. Voyez cet homme qui a vécu sans Dieu, qui a été comme un roseau et puis qui est devenu Pierre. Mes frères et sœurs, la première chose dont nous avons absolument besoin pour être des chrétiens utiles, équilibrés, qui rendent un bon témoignage, c'est d'apprendre. D'apprendre à comment appliquer, qu'est-ce que ça veut dire, appliquez-vous à affermir votre vocation. Il y a des gens qui sont incapables de répondre, ils ont 10 ans de conversion, ils sont incapables de répondre à ce verset. Qu'est-ce que ça veut dire, appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection ? La vocation, ce à quoi je suis appelé, à quoi le Seigneur m'appelle-t-il ? Peut-être plus qu'à un autre, un frère va être appelé à la prédication. Est-ce que ça vaut la peine qu'il s'applique à apprendre à prêcher ? Oui ou non ? Ben oui, c'est écrit, applique-toi à la lecture. Pourquoi Paul demande-t-il au prédicateur de s'appliquer à la lecture, à l'exhortation ? Parce que les gens sont souvent fatigués et un pasteur, un ancien, un prédicateur doit savoir exhorter. Donc chacun d'entre nous qui sommes dans la maison du Seigneur, nous sommes venus prier parce que tous les chrétiens doivent prier, mais après il peut y avoir une spécificité, il peut y avoir une orientation. Vous voyez comme Pierre qui s'est entendu dire, eh bien, tu, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Il est devenu un prédicateur, un pasteur, un apôtre. Donc il est apôtre, on a reçu tous la même foi. Vous avez vu le texte commence en disant que nous avons tous reçu la foi. Est-ce que vous savez que vous avez la foi ? Des fois, on me dit, oh, monsieur, moi, je n'ai pas la foi. Mais ce n'est pas vrai. Vous avez tous reçu une mesure de foi. Vous voyez ? Et ça, c'est vraiment être dans l'ignorance, parce qu'il y a la mauvaise foi, il y a l'ignorance, il y a la malhonnêteté, il y a plusieurs facteurs. On ne peut pas traiter tous les gens de malhonnêtes ou tous les gens d'hypocrites. Il y a des gens qui n'ont vraiment pas eu le souci de lire la parole de Dieu. Dieu a donné à tous les hommes une mesure de foi. La foi dont vous aurez besoin pour vivre votre vie sur la terre, pour faire ce que Dieu vous demandera, vous l'avez. Je ne sais pas à quoi Dieu vous appellera. Dieu peut vous appeler à un service particulier. Dieu va appeler un autre à un autre ministère. Dieu a donné à l'un, à l'autre. On connaît tous ces textes. À celui qui préside, à celui qui enseigne, à celui qui a le don de libéralité. Dieu a donné à tous une mesure de foi. Ce que vous devrez faire pour Dieu, sachez que Dieu vous donnera la foi en question. Ne commencez pas à dire, et si j'y arrive pas, si Dieu vous appelle, il vous appellera à faire quelque chose, vous avez la foi qu'il vous faut. Ce n'est pas possible, sinon ce n'est pas le Dieu que moi je connais. Il y a une parole de Dieu, verset 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées. La grâce, vous l'avez reçue, la paix, vous l'avez reçue. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre la paix? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui, on peut la perdre. On peut la perdre souvent. C'est écrit, poursuivez la paix, recherchez la paix. Rechercher la paix, ça veut dire mais qu'on l'a perdue. Pourquoi on l'a perdue? Eh bien parce qu'on s'est mal comporté, on a mal parlé, on a été maladroit, on a commis une erreur, on a commis un manquement, un péché, vous voyez, ça peut dégénérer. Rechercher la paix. Et dès qu'on obtient le pardon, eh bien on retrouve la paix. Vous avez remarqué? Vous avez été en conflit avec quelqu'un, vous avez été le voir, lui dit je te demande pardon, tu sais, je t'ai mal parlé, vous vous êtes pardonné, et en même temps vous recevez la paix. Vous remarquerez souvent que la grâce et la paix vont presque ensemble, ce sont des sœurs jumelles. Dans la Bible, c'est presque toujours ensemble. Donc la paix, la grâce sont multipliées par la connaissance de Dieu. Ce n'est pas par la connaissance intellectuelle, c'est par la connaissance de Dieu et de Jésus. Ce texte, à 3 reprises, même à 4, parle de connaissance. Regardez au verset 3. Alors, l'épître commence vraiment au verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout. Il faut savoir s'arrêter. Vous savez, quand on me dit, mais je veux vous aider aussi à le faire d'une manière individuelle. Vous voyez, hop, sa divine puissance nous a donné tout quoi? Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Est-ce que la vie est difficile? Oui, la vie est difficile. Est-ce que la vie est compliquée? Oui, tout est compliqué. Aujourd'hui, tout est compliqué. Tout est grave, les gens sont désespérés, le monde est dans les ténèbres, le monde va de plus en plus vers la colère, etc. Le monde est extrêmement difficile. Donc nous, il faut que nous sachions, tout en étant dans le monde, avoir, recevoir de Dieu ce qui nous permettra de continuer à être des bons chrétiens. Comme au fur et à mesure que la nuit s'approche, eh bien, nous nous préoccupons davantage de la lumière. Donc nous devons être de plus en plus lumineux. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alors là, il faut poser la question, est-ce que vous le croyez? Parce qu'en vérité, tout est là. Si vous croyez cette affaire, on le relit? Moi, je voudrais que nous puissions être honnêtes devant le Seigneur. Est-ce que je crois ce que je viens de lire? Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, cette vie que nous devons vivre. L'autre fois, quelqu'un me disait, ah, vous n'avez pas eu de bol, hein, de naître dans votre génération. Et je dis, ben oui, c'est vrai, j'ai mal choisi. Mais il y a des gens qui on sent une pédagogie, vous voyez. Et des fois, les jeunes, vous l'entendrez, mais vous n'avez pas de bol d'être né à votre époque, vous savez, je vous plains. Hein. Écoutez-moi. Non, mais ça vous montre combien les gens... On sent cette profondeur. Mes frères et sœurs, si Dieu a fait que vous soyez nés le jour où vous êtes nés, il vous gardera et il vous protégera. Et si vous avez des enfants, il les gardera. On entend des chrétiens, des fois, on sent des chrétiens qui sont forts dans le don d'exhortation. Combien t'as de gosses? 3 gosses? Ils sont petits? Eh bien, je te plains. Moi, ça me fait pas rire parce que ça vous prouve la foi de ces gens. Écoutez-moi bien, mes sœurs. Si vous avez des enfants petits, Dieu, il vous bénira. Et il vous gardera. Et il vous protégera. Il est engagé. Il l'a dit ou l'a pas dit? Est-ce qu'il a dit qu'il nous garderait jusque dans notre vieillesse? Alors, mais moi, quand j'entends certains chrétiens, et des chrétiens qui... voyez, c'est ça le déséquilibre. C'est vrai que c'est plus difficile qu'avant. Mais vous croyez que dans les temps difficiles, Dieu peut manifester sa grâce et sa gloire? C'est vraiment stupide, un manque de foi, de conseiller à quelqu'un, mais moi je te conseille de ne pas faire de gosse. Hein, vu les temps qu'on vit. Écoutez-moi mes frères et sœurs, si Dieu vous donne un conjoint et si Dieu vous donne des enfants, soyez préoccupés de bien les éduquer, mais Dieu y vous gardera. Sa divine puissance nous a tout donné. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et n'écoutez pas les chrétiens qui sont tout le temps en train de découvrir. Il y en a, hein? C'est pas vrai? Ça fait mal au cœur quand même, vous croyez pas? Si on prenait le temps de méditer des textes comme celui-ci, je peux vous dire que nous veillerions à ne pas décourager les jeunes chrétiens, les jeunes chrétiennes qui sont enceintes et qui ont besoin d'encouragement, mes frères et sœurs. Dieu nous a tout donné, que son nom soit béni. Et ce que vous avez besoin, vous l'avez. Développez-le, on va le voir d'ailleurs. Donc, au moyen de la connaissance. Alors, regardez bien, une fois de plus. Au moyen de la connaissance, pas biblique. Il faut faire attention de ne pas confondre la connaissance biblique et la connaissance de celui qui nous a appelés. Vous faites la différence. Il y a des gens qui connaissent la Bible. Ils connaissent des textes, ils connaissent des livres, ils peuvent vous résumer tous les livres de la Bible. Tiens, tel épître, voilà, c'est, ça représente ceci. Le livre de Néhémie, ça représente ça. Le livre des, voilà, la reconstruction des murailles. Le livre d'Esdras, c'est la reconstruction du temple. Moi, je peux vous le faire, mais ça ne change rien du tout. La connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Vous êtes heureux que Jésus vous ait appelé? Où on serait ce soir? Où vous seriez ce soir? Allez, ceux qui sont convertis depuis plus de 15 ans, je pense que vous allez avoir du mal à savoir où vous seriez. On serait peut-être en enfer. Moi, je le pense. Il nous a appelés par sa gloire, par sa vertu. Alors, regardez bien les conséquences maintenant. Celle-ci, donc sa puissance, sa connaissance, il faut voir pourquoi, il ne faut pas lire n'importe comment. Sa puissance et la connaissance de Jésus nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Je ne sais pas si vous réalisez, frères et sœurs. Il y a des promesses pour chacun, pour l'Église, pour vous, pour vos enfants. Je le relis quand même. Même si c'est la troisième fois, celle-ci nous assure, c'est une assurance, c'est une certitude, de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Dans quel but? Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Voilà, Dieu est tout-puissant, mais nous devons, pour que ces projets se manifestent, participer. Et où on est dans une église, où on est spectateur, observateur, critiqueur, même critiqueur dans le bon sens. On peut dire, tiens, ça c'est bien, ça c'est pas bien. On peut être dans la bonne critique même. Je ne suis pas en train de jeter l'opprobre sur qui que ce soit. Mais ça ne sert à rien. On ne doit pas être des observateurs, on doit être des participants. Voilà le but de notre réunion. Je veux participer. À quoi, Seigneur, tu m'appelles? Est-ce que c'est important pour vous? Parce que quand même, ça a des projections. Là aussi, l'entrée dans le royaume éternel vous sera largement accordée. Je ne sais pas ce que vous avez envie d'entendre quand vous passerez devant le Seigneur, puisqu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Vous y pensez des fois, cela? Il faut tous comparaître, vous passerez devant le Seigneur. Ça vous effraie, ça vous plaît. Franchement, qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'il nous faut comparaître devant le tribunal du Seigneur? Comment ça sera? Quelle sera la taille de la salle dans laquelle on sera? Comment serons-nous habillés, etc. Normalement, de vêtements blancs, il vaut mieux. Mais enfin, quand même, c'est un moment important, oui ou non? C'est pas un moment important? Ah oui. Et tout cela, ça nous permet de le comprendre. Voyez, il y a des promesses participant à la nature divine. Ah, première condition. Première condition. Comment peut-on participer à la nature divine? En fuyant la corruption qui existe dans le monde. Pas de fuir le monde. Il est demandé de fuir la corruption. Voilà. Première condition, fuir la corruption. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de corruption? Alors, c'est même pas la peine. On a intérêt à veiller et Dieu nous aidera. On peut veiller. Moi, quand, c'est plus fort que moi. Quand j'entends ça, c'est pas vrai. C'est qu'on le veut. On peut fuir la corruption parce que Dieu nous demande de la fuir. Ne jouez pas avec le péché. Quand il est dit fuyez la débauche, il y a des péchés plus graves que les autres. Par exemple, c'est le seul péché qui nous est demandé de fuir, la débauche. Pourquoi? Eh bien parce que c'est archi dangereux. Et si vous vous jouez avec ce jeu-là, vous connaissez ce proverbe, celui qui mettra du feu dans son sein sans que ses vêtements ne se brûlent. Deuxième condition, verset 5. À cause de cela, faites tous vos efforts. Vous voyez, d'un côté, Dieu donne, et d'un autre, il nous demande, on le voit 5 reprises dans le Nouveau Testament, à cause de tout cela, de ces promesses, du fait que je peux être participant, du fait qu'il y a des bénédictions, vraiment des bénédictions. Je dois faire des efforts. Je ne fais pas confiance à mes efforts. Parce que là aussi est le problème. Il y a des gens qui font confiance à leur prière. Vous voyez ce que on ne fait pas confiance à la prière. On prie, mais on fait confiance en Dieu. Et là, les efforts, ça a souvent été un problème de religiosité, de légalisme. On a poussé les gens à faire telle chose. Moi, j'ai obtenu la délivrance du tabac en jeûnant 3 jours. C'est pas mon témoignage, moi je le fais par la foi. Alors tu devrais jeûner 3 jours et tu verras, tu seras délivré. Vous voyez, ça c'est ridicule ça. Imposer ses expériences aux autres. Mais moi je l'ai vu ça. Et tu devrais faire comme ça. Moi je l'ai fait. Non, ne faites pas confiance aux efforts et aux efforts des autres. Faites confiance en Dieu. Faites des efforts pour faire confiance. Alors, il nous est demandé de faire des efforts dans plusieurs domaines. Et c'est ça le but de notre exhortation de ce soir, c'est de comprendre ces choses que Dieu donne, que Dieu pourvoira, que Dieu a tout prévu, etc. Que si nous étions des Simons, des gens instables, nous pouvons devenir des gens stables comme Pierre. Et qu'à partir d'un certain moment, même s'il y a des choses à régler, comme la corruption, si vous aimez le péché, moi je vous le dis, fuyez, ou vous fuyez le péché, ou vous fuyez l'Église. C'est pas la peine de souiller l'Église. Parce que quand même l'ennemi fait parfois tout pour que des chrétiens qui vivent volontairement dans le péché souillent l'Église. Et ça, je crois qu'on devrait veiller absolument pour régler cette affaire. Faites tous vos efforts. Alors, où en sommes-nous de la foi? Vous voyez, qu'est-ce qui nous est demandé de joindre l'un à l'autre? Les vertus. Ça pourrait être même le titre de notre exhortation de ce soir. Comment joindre les vertus les unes aux autres? Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'il nous est demandé? La foi à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. L'apôtre s'arrête, mais il aurait pu vraiment continuer la liste, croyez-moi. Il ne l'a pas fait, mais parce qu'il ne peut pas passer 30 lignes à ça. Mais est-ce que nous sommes des chrétiens équilibrés? Est-ce que c'est important pour vous? Vous aimeriez que Dieu vous dise, tu as été un chrétien, oui, mais tu as été un chrétien déséquilibré. Je ne sais pas comment ça va se passer quand on va passer devant lui. Ça risque d'être très bref. Dans tous les cas, tout ce qui aura été réglé par le sang du Seigneur, tout ce qui aura été pardonné, tout ça, on n'aura pas à le régler. Mais quand même, il y aura des choses qui vont déterminer notre condition éternelle. Je ne parle pas du salut. Un pasteur qui parlerait toujours des dons spirituels. Imaginez, pendant 1 an, 2 ans, je prêche sur les dons spirituels. Qu'est-ce que vous diriez au bout d'un an? Peut-être avant. Qu'est-ce que vous diriez? Voilà, il y a des gens sages qui diraient, c'est bon, on a compris. Mais est-ce que ça serait équilibré? Ben non. Bien sûr, le pasteur pourrait se gargariser de dire, mais non, je prêche sur les dons spirituels parce que je veux que tout le monde prophétise, je veux que tout le monde exerce les dons spirituels. Ça serait peut-être biblique, mais ça ne serait pas équilibré. Ah, ce texte doit nous amener à cette réflexion. Dire, tiens, mais est-ce que je suis un chrétien équilibré? Le Seigneur nous demande d'avoir de la foi, du zèle, de la connaissance. La connaissance, il faut l'avoir. Est-ce que j'ai de la connaissance biblique par le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que j'ai du zèle? Est-ce que j'ai de l'amour? L'amour, ça va avec quoi? Ça va avec la vérité. Parce qu'au nom de la vérité, je ne peux pas dire n'importe quoi. Vous êtes d'accord avec moi? Si j'aime quelqu'un, je vais certainement mesurer les choses et la façon dont je vais le lui dire. Je peux avoir du zèle et pas de la connaissance. Vous vous rappelez dans la parabole du Samaritain? Vous vous rappelez cette parabole? Qu'est-ce qui se passe dans cette parabole? Il y a un blessé, il y a un besoin. Parce que le but quand même, le but c'est de répondre à des besoins. Prenons une parabole, Jésus parle d'un blessé sur le bord du chemin, et puis il y a 3 personnes qui passent. La première, c'est un sacrificateur, la deuxième, un lévite. D'accord. Donc, il y a un prêtre qui passe, et un lévite, 2 religieux qui passent. Par déduction, ces 2 religieux sont bardés de connaissances. Vous êtes d'accord? Ils ont une véritable connaissance, c'est obligé. par leur fonction, par leur titre, c'est des gens qui ont vraiment de la connaissance. Mais ils passent devant un besoin, et qu'est-ce qui se passe? Ils n'y répondent pas. Pourtant, ils ont de la connaissance. Mais qu'est-ce qui leur manque? Le zèle. Ou l'amour. Donc, il faut joindre à la connaissance du zèle ou de l'amour. C'est pour cela qu'au fur et à mesure que nous apprenons, nous devons nous interroger, nous dire, mais parce que moi, il me semble que dans l'apostasie où le monde se trouve, l'apostasie, c'est pour ceux qui l'ignorent, c'est l'abandon de la foi dans l'Église. Ou alors on baisse les bras, et on dit, mais c'est comme ça, de toute façon, l'apostasie doit arriver, donc on ne peut pas passer outre, et ça c'est clair. C'est prophétique, l'abandon de la foi, c'est une réalité dans l'Église entière, avec un E majuscule. Mais dans chaque Église, il peut y avoir des vainqueurs. Est-ce que dans les Églises de l'Apocalypse, ça ne se termine pas toutes avec cette parole, pas à ceux qui vaincront, à celui qui vaincra. Donc, quelle que soit l'Église dans laquelle vous puissiez vous trouver, une chose est sûre, vous pouvez être un vainqueur. Pourquoi? Parce que ce genre d'exhortation, ça vous interpelle, vous vous dites, mais quand même, c'est vrai que beaucoup de chrétiens sont déséquilibrés, beaucoup de chrétiens sont apostats, c'est vrai, beaucoup de chrétiens sont légalistes. Vous en avez vu des chrétiens légalistes? Il y en a des chrétiens laxistes, est-ce qu'il n'y en a pas aujourd'hui? Voilà, il ne faut pas, vous voyez, prendre le contre-pied de l'un ou le contre-pied de l'autre, il faut être des chrétiens équilibrés. Et on doit demander à Dieu de la sagesse, on doit demander à Dieu de l'intelligence, mais je pense très sincèrement qu'avec la parole de Dieu, on peut dire, Seigneur, je veux être un chrétien équilibré. Dans l'église où tu m'as placé, je veux être un chrétien équilibré. Moi, je vous assure, moi, j'ai repris souvent des gens. Bien sûr, ils sont partis. Alors, je ne sais pas s'ils ont bien fait. Je ne pense pas. Mais si on reprend quelqu'un, est-ce que c'est bien de reprendre quelqu'un? Moi, je vais vous dire, je ne sais pas si ce que je vais dire, c'est bien. Je ne sais même pas si je devrais le dire. Mais c'est quand même révélateur. Sur 10 personnes que j'ai repris, à peu près, il y en a au moins 7 qui partent. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que vous en pensez? Après, c'est vrai qu'il faut peut-être faire attention à la façon dont on le dit, mais même sur le moment où on a la petite boule, ça peut arriver, non? On vous dit quelque chose pendant 24 heures, il faut le digérer, vous savez. Mais puis après, une fois digéré, quand même, mais quand même, c'est vrai. Moi, il y a des gens qui me disent, monsieur Gros, ça ne m'a pas plu sur le moment. Ça ne m'a pas plu, mais vous aviez raison. Et voyez, mais soyons honnêtes, sur le moment, ce n'est pas grave, c'est normal, sur le moment, on est peut-être un peu contrarié, mais quelle grâce d'accepter la vérité. Vous voyez, on peut avoir. Alors, j'ai parlé du lévite et du prêtre qui avaient de la connaissance, mais pas de zèle. Donc, quand le besoin s'est rencontré, ils n'ont pas pu l'aider. Si on va prendre un texte où c'est l'inverse. C'est peut-être bien. Vous voyez, dans Romains au chapitre 10, c'est l'inverse. Comme quoi, vous voyez, il faut savoir si la connaissance, si le zèle sont exactement celui ou ceux que Dieu veut. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Verset 1er. Ça, c'est l'inverse. Là, on vient de partager une parabole où il y a de la connaissance sans le zèle. Maintenant, lisez bien. Il faut bien lire. Et marquez-le dans votre Bible, sur des notes. Si vous voulez faire des progrès, notez ces choses. Frères, donc c'est Paul qui parle. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Bien sûr, le but, c'est toujours ça. Je leur rends le témoignage qu'ils ont. Regardez bien. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Là, c'est un autre cas de figure, ce sont des religieux, ils ont du zèle, mais ils n'ont pas la connaissance et ils veulent être sauvés par leur propre justice. Vous avez compris. Donc, vous le méditerez, parce que c'est un peu compliqué, mais en même temps, c'est facile quand on le lit plusieurs fois. On peut avoir du zèle, mais en fin de compte, ne pas avoir la connaissance. Est-ce qu'on peut être sauvé par les œuvres? Non. On ne peut être sauvé que par le sang de Jésus-Christ. Donc, voyez, là, c'est un autre cas des pharisiens. Ils ont, cette fois-ci, ils ont du zèle, mais ils n'ont pas la connaissance. Voyez, le sujet de l'équilibre, c'est un sujet qui se travaille. Moi, je vous avoue, quand je me suis converti, j'ai été peiné de voir le déséquilibre dans l'Église. Pourtant, j'avais un mois de conversion. Et lorsque je suis rentré dans le ministère, la première chose que j'ai voulu faire, c'était une obsession. Donc, ça fait 33 ans maintenant. Je me suis dit, tu vas faire une prédication sur l'équilibre. On m'avait offert une concordance, et moi, tout content, j'ouvre ma concordance. Équité, et pas le mot équilibre. Je dis, mais c'est pas possible. J'étais contrarié. J'ai dit, il n'y a pas le mot équilibre dans la Bible. Alors, je téléphone à mon pasteur, je me rappelle. J'écoutais, il s'appelait M. Bertalon. Je dis, M. Bertalon, écoutez, je ne suis pas content, j'ai cherché. Je veux faire une étude, il n'y a même pas le mot équilibre dans la Bible. Il me dit, il n'y a pas besoin qu'il y ait le mot équilibre. Mais toute la Bible est un livre d'équilibre. Et tu le découvriras en la lisant. C'est ce qu'on est en train de faire ce soir. Et vraiment, un chrétien, il a le souci d'être équilibré. Dans sa foi, dans son zèle. C'est important d'avoir du zèle, mais pas un zèle amer. La Bible parle d'un zèle amer. D'un zèle même... Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Jacques, hein? Est-ce que vous pourriez m'aider? Parce que... Regardez Jacques chapitre 3. Vous voyez, c'est au verset 13, il y a des questions qui nous aident à nous analyser, parce qu'à fin de compte, on doit tous faire des progrès. Vous êtes d'accord? Il y a quelqu'un ici qui ne veut pas faire des progrès? Il y a quelqu'un ici qui ne voudrait pas être un chrétien équilibré? Bien sûr que non. Et pourtant, Jacques chapitre 3, verset 13. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ?» Bon, levez-vous. Bon, il n'y a personne? Eh bien, merci, hein. Ça fait 18 ans que je vous enseigne, je n'ai pas réussi à en faire un. Et bien, ça m'encourage. Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, voyez, avec la douceur de la sagesse. Mais, si vous avez dans votre cœur un zèle, voyez, on peut avoir du zèle, des chrétiens. Mais comment il le définit? Un zèle amer et un esprit de dispute. Vous avez vu? Un chrétien qui a un zèle, mais un zèle amer, un esprit de dispute. Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité, regardez bien. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Alors il y a trois niveaux, ça fait quand même peur. Mais elle est terrestre, charnelle ou diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre, voyez. Donc du déséquilibre. Alors, on pourrait aller dans Romains pour regarder quand même quelque chose qui va nous aider. Dans Romains, au chapitre 14, il y a tout un chapitre sur l'équilibre. Ce n'est pas parce qu'on est fort qu'il faut mépriser les faibles. Dans une église, c'est vrai que c'est pénible. Les gens qui sont toujours faibles, il y a des gens qui sont tout le temps faibles. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Est-ce que c'est la faute au pasteur? Est-ce que c'est la faute au pasteur? Oui, ça peut. Un chrétien peut ne pas nourrir suffisamment un peuple. Oui, ça peut l'être. C'est biblique dans Ézéchiel 36, ouais. Dans Ézéchiel 36, il en est parlé. Regardez, accueillez celui qui est faible dans la foi. Chapitre 15, verset 1er. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Vous voyez, ça, donc il peut y avoir des faibles. Dieu peut nous tester à la façon dont nous accueillons des faibles. C'est important ça. Dieu nous teste, vous savez, il ne teste pas qu'à l'extérieur. Demain, vous allez peut-être être testé parce que votre chef de service est ronchon, est désagréable. Bon, ça va, Dieu va vous éprouver avec votre chef de service. C'est plus facile à détecter. Mais le Seigneur peut nous tester aussi dans une église avec quelqu'un qui est toujours faible. C'est vrai que c'est pénible. Moi, je sais que ça m'a souvent contrarié, pas contrarié, mais peiné. Il y a des gens, ils sont tout le temps faibles. Alors, on pourrait les blâmer ou les critiquer, mais Dieu nous demande de les supporter. Supporter, ça veut dire les porter. Accueillir celui qui est faible. Ne discutez pas les opinions. Vous voyez, quand on commence à discuter les opinions, on prend l'exemple qui est cité. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes, donc il est végétarien. Alors, est-ce qu'un chrétien végétarien est plus spirituel qu'un chrétien qui aime l'entrecôte. Non mais moi j'ai vu des chrétiens se prendre le bec par rapport à des comportements comme celui-ci. Est-ce qu'un chrétien a le droit d'être végétarien? Bien sûr. Est-ce qu'un chrétien a le droit de manger de tout ce qui se vend au marché? Parce qu'il est écrit, vous pouvez manger de tout ce qui se vend au marché. Après, il y a des ordonnances par rapport au sang, mais c'est dans un autre contexte. Alors on en parlera une autre fois. Ou alors, si vous voulez être des chrétiens vraiment équilibrés, lisez-le et vous me poserez des questions. Je laisse ça à votre soin. Que celui qui ne mange pas ne méprise point celui... Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Vous voyez? C'est ça, là, l'équilibre. Qu'il y ait des riches et des pauvres, est-ce que c'est normal qu'il y ait des riches et des pauvres? Est-ce qu'il y a des textes dans la Bible qui disent « Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui a créé l'un et l'autre. » Est-ce que c'est normal qu'il y ait des riches? Oui. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des pauvres? Oui. Le riche ne juge pas, ne méprise pas le pauvre, et le pauvre ne méprise pas ou ne juge pas le riche. Si Dieu vous a béni matériellement, eh bien, que son nom soit béni. Si vous a moins béni, c'est peut-être la plus grande bénédiction qui vous soit arrivée. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils sont bénis, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent le Seigneur. Et moi, je l'ai vu presque 9 fois sur 10. C'est rare les gens qui sont aisés et qui restent humbles, parce qu'il y a beaucoup de gens bénis qui finissent par s'appuyer sur leur richesse. Voyez, on lit la suite. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais s'il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Alors les jours, est-ce qu'ils sont égaux? Je ne parle pas à l'endurée de temps. À l'équateur, oui. Mais les jours, est-ce qu'ils sont tous pareils? Est-ce que le dimanche est plus important que les autres jours de la semaine? Est-ce que pour vous, le dimanche, c'est appelé dans la Bible le jour du Seigneur? D'accord? Oui ou non? Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Bon, donc, il y a une petite différence. On le voit, Paul disait, le jour du Seigneur, nous étions dans la synagogue, etc. Bon. Moi, personnellement, je fais quand même... Le dimanche, c'est quelque chose. C'est le jour du Seigneur. Tous les autres aussi. Si quelqu'un les estime tous égaux, en vérité, ils sont tous égaux. Le problème, ce n'est pas que le jour du Seigneur soit plus important que les 6 autres jours de la semaine. En vérité, le problème, c'est que les 7 jours, nous obéissions à Dieu. Ça, c'est non négociable. Vous me suivez? Ça, c'est biblique. Mais si quelqu'un estime le dimanche supérieur ou différent des autres jours, c'est bien. S'il estime que les 7 jours sont égaux, c'est bien. Et il y a tout un tas d'enseignements dans la Bible qui contribuent à cela. Et regardez le verset 5, on va terminer avec cela. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. La fin du verset 5 est un verset que vous pouvez souligner, apprendre par cœur, parce que c'est quand même comme cela que l'on avance dans le royaume, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. C'est pas bien ce verset? Quand on s'est converti avec Isabelle, vous ne lui direz pas, parce que je sais que vous ne rapportez rien. Isabelle se maquillait beaucoup, mais vraiment beaucoup. Ça lui allait bien, ça me plaisait. Mais quand on s'est converti, elle a continué, et quand elle est arrivée à l'église, un pasteur vraiment plein de pédagogie, lui a dit, tu travailles chez Ripollin? Ripollin, c'est une marque de peinture. Vous voyez, peinture pour peindre les murs. Mais, vous voyez? Alors, elle m'a regardé, elle m'a dit, qu'est-ce que t'en penses? Mais on se convertissait, c'était notre deuxième culte, donc on est sérieux. Moi, j'avais lu Matthieu, Marc, ça faisait 15 jours, j'avais lu 4 évangiles. Mais enfin, bon, qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit, moi, je ne sais rien. Et en plus, on a le souci d'obéir au pasteur. Vous voyez, tu te convertis,
Alors, c'était un dimanche, le lundi, on va voir ma belle-mère. Alors, Isabelle, pas maquillée du tout. Mais pas maquillée, on aurait dit, ça faisait peur presque. On arrive chez ma belle-mère, c'est dans ta secte qu'on t'interdit de te maquiller. Et Isabelle, elle n'a pas répondu. J'ai vu à ses yeux un message. Et je me sens, écoutez bien. Et quand on est sorti, elle m'a dit à partir d'aujourd'hui, ça faisait 15 jours quand même, qu'on était convertis, elle me dit à partir, parce qu'elle ne pouvait pas dire non, puisque elle ne le faisait pas par conviction. Elle le faisait parce que le pasteur lui avait demandé si elle travaillait chez Ripollin. Et elle avait lu ce texte, justement, la veille ou l'avant-veille, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Et je me rappelle, on était sur le pas de la porte. Elle m'a dit, maintenant, je ne ferai pas les choses parce qu'on m'oblige, je ferai les choses par conviction. Et elle continue à se maquiller un peu, mais comme dit la Bible, soyez sobre en toute chose. Le problème, c'est quand le maquillage, c'est vrai, c'est trop fardé. Vous êtes d'accord avec moi? Quand ça, on le sait quand quelque chose choque, oui ou non? Mais voyez, mes frères et sœurs, dans les églises, on a perdu des gens comme ça. Parce que ça vous fait rire tout ça. Mais moi, j'ai vu, quand je travaillais en boîte de nuit à l'époque, et j'ai amené une trentaine de personnes à l'église. C'était à Castres. Une trentaine de personnes à l'affaire de 2 mois à l'église. Les 30, à part 3 ou 4, Gilbert, parce qu'il y a une dame qui les connaît, hein, au milieu de nous, qui est de Castres, à part 3 ou 4 qui se sont convertis, tous m'ont dit, Gérard, tu es dans une secte. Et moi, franchement, je n'ai pas répondu. Parce qu'il y avait des comportements sectaires. Et quand on oblige, ou quand on impose ses convictions à un autre, moi je trouve qu'on n'est pas un chrétien équilibré. Par contre, quand on est équilibré, je pense qu'on est des modèles. Et il faut que chacun fasse sa propre expérience. En plus, c'est écrit. Ce que je vous dis, c'est pas mon idée. C'est l'idée du Seigneur d'être des gens équilibrés. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi le zèle, au zèle la connaissance, etc. On voit bien qu'il y a tous les éléments pour être des chrétiens équilibrés. Mais vous savez, ça fait mal au cœur parce que dans des églises, on a scandalisé les gens à cause du légalisme ou à cause du laxisme, parce que l'église s'est mondanisée ou parce que l'église est tombée dans la religiosité. Et voyez comment c'est dommage. Moi, je crois qu'on est heureux lorsqu'on donne un bon témoignage de gens équilibrés. Après, s'il y a des choses qui choquent, je pense que c'est à nous. Mais vous ne croyez pas que le Saint-Esprit est capable de montrer à quelqu'un s'il y a de l'extravagance, s'il y a trop de maquillage, si la tenue vestimentaire n'est pas adaptée? Vous ne croyez pas que le Saint-Esprit le montre? Mais n'imposez pas vos convictions, ne les imposez jamais. Partageons-les, vous voyez. En plus, on va terminer avec ce verset, mais quand même, c'est merveilleux. Alors, il y a encore de l'enseignement sur la nourriture, mais regardez, Romains 14, versets 17 et 18 et 19. Regardez bien quand même, parce que la pensée de Dieu, vous pouvez dire, mais ça c'est ce que M. Gault pense. Non, c'est pas ce que M. Gault pense, c'est ce que Dieu dit. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Regardez bien le verdict de Jésus-Christ. Celui qui sert Dieu, Christ, de cette manière, est agréable à Dieu et approuvé des hommes. C'est pas beau quand même, hein? Vous voyez, quand on s'applique, quand on recherche l'équilibre. Vous voyez, je relis, celui qui sert Christ, parce que c'est un service le témoignage. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons, il y a une recherche, c'est ce qu'on a fait ce soir, on a fait une recherche par des textes, ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Donc voyez que l'équilibre, ça va contribuer dans une église à quoi? À ce que nous soyons en paix. Et je peux vous dire que dans ce monde détruit, s'il y a bien un endroit où on doit être en paix, c'est à la maison et à l'église. C'est pas vrai? Dans une église, ce qui est beau, et j'espère, je crois que c'est le cas, quand on est en paix. Recherchons, il y a un verbe actif. Recherchons ce qui contribue à la paix. Et je peux vous dire que l'équilibre, de ne pas imposer les convictions, ça plaît tellement à Dieu que ça provoque, ça produit la paix et l'édification. Donc vous voyez, ça contribue encore plus à ce que nous grandissions. Pour un aliment, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Alors c'est un sujet infini. On pourrait, et peut-être que je le poursuivrai. J'avais à cœur de vous partager ça aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'un chrétien doit chercher à être équilibré. Et dans l'église, quand on vient, on est en paix. Qu'est-ce que c'est l'église ? C'est un endroit où les gens sont très 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 différents les uns des autres, et heureusement, c'est bien qu'on soit différents. Vous aimeriez qu'on ait tous la même tête, tous la même couleur de cheveux, tous la même taille, tous le même parfum. On est tous différents et on doit tous s'accepter comme on est. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc vous devez vous accepter comme vous êtes. Vous vous acceptez comme vous êtes ? Vous vous aimez comme vous êtes ? Ou est-ce que vous dites « je suis trop petit » ? Soyons nous-mêmes, mes frères et sœurs, cherchons ce qui contribue à la paix. Recherchons la paix. Notre monde est difficile, c'est difficile. Dans l'Église, il faut qu'on vienne avec cette grâce. Alléluia. C'est important, mes frères et sœurs. L'Église du Seigneur, elle, s'il y a bien une chose qui doit la caractériser, c'est la paix. L'équilibre doit précéder, bien sûr. Alors, quand on lit la Bible, demandons à Dieu. Est-ce qu'on peut lui demander à Dieu, « Seigneur, fais de moi un chrétien équilibré ?» Ben ouais, on peut lui demander.